Vous êtes Radio Okapi, il est 7h à Kikonka, au Congo central, 8h si vous êtes au quartier Kamkolobondo, à Kalemi, le journal.
Radio Okapi.
Report de la marche des leaders de l'opposition prévue aujourd'hui pour le 20 mai prochain. Annonce faite par Delice et Sanga dans une conférence de presse co-animée hier à Kinshasa avec Martin Fayulu, Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Raison de ce report, l'hôtel de ville de Kinshasa n'a pas donné son feu vert, a dit Delice et Sanga. Province du Kwango, 4 morts et des blessés. Bilan provisoire de l'affrontement hier au village Bachongo entre la milice Mobondo et les forces de l'ordre. Ce village est actuellement vidé de ses habitants, signale le cadre de concertation de la société civile du Kwango. Et puis, l'invité de ce matin, Muzumani Risasi, superviseur national du projet La Tafima pour la gestion des poissons dans le lac Tanganyika. Il s'exprime sur la mesure portant fermeture de la pêche à partir du 15 mai prochain dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika. Madame, Messieurs, bonjour. La marche pacifique des leaders de l'opposition prévue ce samedi 13 mai est reportée au samedi prochain 20 mai par ses initiateurs. L'annonce a été faite par Delice Sanga d'Envol au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa. Conférence co-animée avec Martin Fayulu de l'ESID, Matata Ponyo de Leadership et Bonne Gouvernance et Moïse Katumbi de Ensemble pour la République. Selon Delice Sanga, l'hôtel de ville n'a pas donné son feu vert et ne garantit la sécurité de cette manifestation prévue aujourd'hui. Delice Sanga est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Ce qui guide l'autorité urbaine, c'est la volonté de rompre l'élan de mobilisation que nous avons constaté et l'effervescence dans la ville d'une population aujourd'hui meurtrie, d'une population qui veut manifester contre la vie chère, contre l'insécurité grandissante dans notre pays et contre un processus électoral chaotique et frauduleux. Face à cette mobilisation, l'autorité urbaine qui a minimisé au départ n'a eu d'autre recours que d'interdire la marche. Et sous quelle motivation on évoque la sécurité? En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Nous voulons alléger la tâche du gouverneur qui a dit il y a des machettes qui sont distribuées dans la ville.
Direction la province du Kwango. 4 morts et des blessés. Bilan provisoire de l'affrontement hier entre les combattants de la milice appelée Mobondo et les éléments des forces de l'ordre au village Bachongo. Selon le cadre de concertation de la société civile du Kwango qui alerte, parmi ces 4 morts, il y a 3 hommes en uniforme et un civil. Symphorien Kwengo, premier vice-président de cette structure, fait savoir que le village Bachongo est vidé de ses habitants. Nous sommes sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et la ville de Kenge. Symphorien Kwengo plaide pour la restauration urgente de la paix dans cette partie du pays. Il a été joint hier par Irène Boma.
Effectivement, ce matin, à Bachongo, il y avait un climat inhabituel. Il y avait déjà des soupçons de l'arrivée imminente des assaillants appelés Mobondo, qui sont arrivés à la recherche du chef Mayal de Mongata. Ils sont arrivés là et il y a eu une confrontation avec quelques éléments de l'ordre qui venaient en renfort à partir du pont Kwango. Donc, maintenant que je vous parle, le bilan provisoire fait état de 4 morts. Il y a un civil, un policier et un FARDC. 3 hommes en uniforme avec un civil. Le bilan encore provisoire. Mais en tout cas, je vous dis que la situation est catastrophique. Bachongo est devenu désert, il n'y a plus personne. Tout le monde a pris sa direction en fuite. Les biens sont restés intacts, mais on a observé quelques blessés. Mais le plus important, nos recommandations au gouvernement provincial et national de renforcer les mesures de sécurité, de prendre les mesures pour que la sécurité soit le plus rapidement possible rétablie dans cet espace de la province du Kwango.
Joint à ce sujet, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Kwango, Noël Lumbu, promet de se prononcer incessamment. Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, un retour progressif de la population est signalé dans tous les groupements de la chefferie des Bachou. C'est depuis le lancement des opérations militaires conjointes dans cette entité, où une centaine de civils ont été tués par les EDF au début de cette année. Toutefois, la situation socio-économique reste alarmante dans la zone, car la population composée majoritairement d'agriculteurs n'a toujours pas accès à ces champs. Le point avec Marc Marofimbo.
Ce retour est signalé dans les localités du groupement de Bunyuka, Isale Bulambo, mais également dans une partie des groupements de Kasongwere et Malio. Ici, la population vit encore la peur au ventre à cause des traumatismes subis lors du passage des rebelles des EDF. La situation socio-économique reste alarmante dans ces entités où les retournés n'accèdent toujours pas à leurs champs dans la profondeur du Graben à cause des opérations militaires en cours. La faible production en nourriture provient des champs proches des villages, mais ici, les paysans manquent d'engrais et on trouve peu de terres arables. Conséquence, c'est la famine qui s'abat sur la population, comme le témoigne ici Saddam Patangouli, leader communautaire de la chefferie des Bachou.
Les populations civiles n'ont plus accès à leurs champs, alors que nous sommes dans la période agricole. Voilà un peu ce qui complique. La famine, c'est aussi un autre fléau qui guette la région, parce que la population qui mangeait, par exemple, 3 à 4 fois par jour, aujourd'hui elle mange difficilement une fois par jour. Vous comprenez que la situation est alarmante.
Toutefois, la coordination des opérations conjointes dans la région appelle la population à la patience, car les opérations de nettoyage de la région se poursuivent afin de permettre des mouvements sécurisés de la population dans leurs champs situés dans la profondeur du Graben. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nord Kivu, toujours, la réclusion criminelle à perpétuité, c'est la peine prononcée vendredi à Goma par le tribunal militaire de garnison de Goma contre une des bandes des malfrats qui mettaient à mal la sécurité dans la ville. Parmi eux, 4 militaires des FARDC et 3 civils. L'État congolais est aussi inculpé pour l'infraction d'association des malfaiteurs. Il est sommé par la même juridiction de payer des frais de dommages en faveur des familles des victimes dans cette affaire. Le condensé de cette décision avec Gabriel Ouamenia.
Il est 14h30, nous sommes à la tribune centrale communément appelée Osaka lorsque la police d'audience présente les armes devant les juges. Quelques instants plus tard, la sentence tombe.
Fait application de l'article 7 du code pénal militaire, condamne les prévenus à la seule peine, à savoir la peine la plus forte.
Parmi ces tortionnaires condamnés en série figurent 4 militaires des FRDC du 34-08e régiment. Dans cette bande se trouvait aussi Baraka Matokeo, héritier le plus dangereux, Elie Anziekure Bosco, les guetteurs chargés d'identifier et cibler pendant la journée les quartiers et les maisons où les opérations devraient être menées la nuit, et un certain Daniel chargé de vendre les biens volés. Tous sont des civils. Ils viennent découper collectivement la détention à perpétuité. Peine requise hier jeudi par l'organe poursuivant lors de son réquisitoire. Ils doivent également payer in solidum avec l'État congolais 70 millions de dollars américains exprimés en francs congolais aux deux parties civiles. Un des avocats des victimes salue la décision du tribunal. De tels procès peuvent contribuer tant soit peu à la baisse de la criminalité dans la ville, estime Maître Léopold Bagula. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a lancé jeudi à Bunia un projet sur la promotion de la gouvernance sécuritaire inclusive et participative des femmes pour le développement du territoire de Djougou en Ituri. Cette approche vise à renforcer les capacités des femmes dont la plupart sont affectées par les conflits armés qui persistent dans ce territoire. L'objectif est de les impliquer dans la recherche active des solutions durables aux problèmes sécuritaires. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est au regard de la persistance des conflits armés en Ituri qu'une trentaine des représentantes des organisations féminines, des notables, se sont réunies jeudi à Bunia. Objectif, échanger sur les mécanismes d'implication des femmes à la gouvernance sécuritaire dans les territoires des Djougou. Pour la coordonnatrice du Forum des mamans de l'Ituri, les femmes ont des qualités et des atouts qui doivent être pris en compte pour résoudre les problèmes sécuritaires dont elles sont les premières victimes. Elles peuvent par exemple participer aux comités locaux de sécurité et de proximité. Jacqueline Christine Malossi, coordonnatrice de cette organisation.
Les femmes sont absentes ou exclues du processus de renforcement de paix dans le territoire. Or, elles sont une potentialité et un atout pour faciliter la résolution pacifique des conflits.
L'administrateur du territoire de Djougou salue cette initiative qui met, selon lui, la femme au centre du développement dans ces territoires en proie aux conflits armés. Rufai Mapela.
L'implication de la femme dans ces comités, ça sera plus lorsque nous aurons des réunions élargies. Leur implication, ça sera très capital dans un contexte que nous travaillons.
Ce projet financé par les PNUD à hauteur de 62 000 $ américains sera exécuté pour une période de 6 mois. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Province de l'Équateur, les femmes leaders du consortium des femmes sans frontières dénoncent la montée des cas de violences sexuelles basées sur le genre à Bungonde. Ces femmes rapportent que les victimes sont violées à longueur des journées dans des champs dans ce quartier urbano-rural situé à 30 km de Mbandaka. D'autres le sont pendant qu'elles s'y rendent à la source ou la nuit au petit marché local. À cette allure, les femmes leaders redoutent que cette année les statistiques soient plus élevées alors qu'en 2022, 108 cas ont été enregistrés rien qu'au premier semestre. Parmi les victimes, il y a notamment des femmes autochtones pygmées, mais les autorités locales intimident les victimes qui osent dénoncer les auteurs, affirment ces femmes leaders, raison pour laquelle la présidente de la commission violence sexuelle basée sur le genre et ses collègues ont mené hier leur plaidoyer auprès du maire de la ville de Mbandaka. Claudine Biongo explique au micro de Paul Richard.
Lors de notre réunion à Bungonde, là les femmes ont fait ressortir plusieurs problèmes qui donnent la rétrogradation des femmes et qui fait que les droits fondamentaux des femmes sont bafoués par les hommes, par la communauté de ces coins. Il y a souvent les femmes pygmées, pays sont violées. Mais toutes ces femmes-là, quand elles veulent dénoncer, les autorités en place ne veulent pas. Ils interdisent aux femmes, non, il ne faut pas faire ça, on n'a pas vu, il ne faut pas. Mais réellement, nous avons des cas palpables que nous avons vus. On est timide, les femmes, on va les rejeter dehors, on refuse au mariage, des intimidations pareilles. Aussi, nous avons le phénomène qu'on appelle le staff. Le staff, après avoir pris les boissons, il commence à dire les sanités, les injurier, le sexe des femmes et de tout consort. Ça fait que les femmes se sont vraiment senties humiliées. Par rapport aux autorités, nous attendons les mesures sécuritaires qui puissent arrêter les auteurs de ces actes-là. Et par rapport aux autorités qui sont sur place à Bungonde, qui puissent prendre les mesures de les suspendre, soit les sanctionner, afin de ne pas continuer à intimider les femmes s'ils peuvent dénoncer les cas de violences sexuelles.
Notez que ce plaidoyer rentre dans le cadre du projet Voix et Leadership Féminin financé par Affaires Mondiales Canada. Le directeur de cabinet du maire de Mbandaka qui a réceptionné le document a promis que l'autorité ne ménagera aucun effort pour y répondre positivement. La synergie des organisations syndicales et sociales s'engage à mobiliser les populations dans la campagne de lutte contre la corruption à travers le pays. Cette structure a pris cet engagement hier à Kinshasa lors de l'atelier de formation et d'information sur la lutte contre ce fléau. Les membres de cette organisation ont soutenu que la corruption est l'un des fléaux qui prive l'État des moyens de sa politique. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces acteurs de la société civile ont pris part à cette rencontre visant à décourager la corruption qui, selon eux, constitue un fléau qui gangrène la société congolaise. Ils ont ainsi levé l'option de mener des campagnes porte à porte pour faire comprendre les conséquences de la corruption dans la marche du pays. C'est une façon pour le secrétaire général du syndicat national des écoles confessionnelles catholiques Sinecat de contribuer au développement du pays. Jean Bosco Pouna.
C'est un véritable réveil que nous prenons aujourd'hui pour pouvoir accompagner les efforts du chef de l'État. Parce que n'oubliez pas que le chef de l'État avait dans son programme la lutte contre la corruption comme cheval de bataille.
Pour sa part, José Mbou, expert dans la lutte contre la corruption, est d'avis que tous les partis politiques ont intérêt à mettre la main à la pâte pour décourager ces fléaux. Comme alternative, il propose la numérisation des preuves pour décourager les corrupteurs, voire les corrompus à travers le pays.
Donc il est question maintenant que nous allons dans un travail sémir de renseignement, c'est reconnu par la Convention des Nations Unies, la numérisation de la preuve à tous les niveaux, depuis la présidence publique jusqu'en bas. Ça veut dire que je viens dans votre bureau, on discute, vous m'écoutez, moi je vous écoute, les éléments de preuve sont là, et bien on vous a traduit comme une question de justice.
Certains observateurs ont regretté que la corruption continue de faire son chemin malgré les changements de régime et n'épargne à ce jour aucun secteur de la vie nationale.
Actualité Afrique Monde.
En Somalie, depuis quelques jours, des scènes d'inondations sont fréquentes dans le centre du pays, dans la ville de Beledweyne. Par exemple, le débordement d'un cours d'eau suite aux intempéries a poussé des milliers de personnes à abandonner leur domicile. Selon l'ONU, les dégâts matériels considérables touchent aussi des marchés et des hôpitaux. Par contre, ces précipitations fréquentes pendant la saison des pluies, qui court d'avril à juin, apportent cependant un certain soulagement dans d'autres régions du pays qui souffrent d'une des plus graves sécheresses que la Somalie ait connue.
L'invité.
Il s'agit de Muzuma Nirisasi, superviseur national dans la zone centre-nord pour le projet Latafima, projet sur la gestion des poissons dans le lac Tanganyika. Il s'exprime sur la mesure portant fermeture de la pêche à partir du 15 mai prochain dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika, une mesure qui avait été prise pour augmenter la production des poissons en baisse depuis une dizaine d'années. Muzuma Nirisasi s'entretient avec Fiston Ngoma Mayabala.
Muzuma Nirisasi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes superviseur national zone centre-nord ou Virafizi pour le projet Latafima, qui a pris la décision de fermer ou de suspendre toutes les activités de pêche sur le lac Tanganyika pendant 3 mois à partir du 15 mai de cette année.
Et cette décision était prise par les 4 pays riverains du lac Tanganyika, c'est-à-dire le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la RDC, à travers l'autorité du lac Tanganyika, qui est l'autorité qui gère ce lac pour le moment, l'autorité qui représente les gouvernements des 4 pays. Je tiens à vous rappeler que les 4 ministres en charge de la pêche dans les 4 pays ont signé la charte il y a de cela 2 ans.
En tant que chercheur ici au CEREAGH, Centre de Recherche en Hydrobiologie et superviseur national de ces projets, quelle est selon vous l'importance de cette décision, la fermeture de la pêche sur le lac Tanganyika?
C'est pour permettre au lac de se reposer un peu, permettre aux poissons de se reproduire pour que la pêche redevienne rentable. Je tiens à vous signaler ici que la production halieutique est devenue insignifiante, très faible. Les pêcheurs qui payent leur licence accumulent de dettes de carburant parce qu'ils ne gagnent plus rien. Avant, ils gagnaient des caisses, ils remplissaient des sacs. Maintenant, ils rentrent avec des bocaux, je ne sais pas moi, des sous. C'est déplorable. Toute la nuit, vous rentrez avec un seau. 7 personnes qui travaillent toute la nuit et rentrent avec un seau, d'ailleurs, qui n'est pas rempli de poissons. Et une quantité qui ne peut pas même rembourser la facture de carburant. Voilà la réalité, qu'on ne se voile pas la face.
Depuis quand avez-vous fait ces constats sur la baisse sensible de la production des poissons sur le lac?
Comme l'a dit le directeur exécutif de l'autorité du lac Tanganyika, c'est depuis 2015 qu'on a senti la baisse sensible. Et le cri est venu des pêcheurs depuis 2015 jusqu'en 2018. Alors l'autorité du lac Tanganyika ne pouvait pas croiser les bras. Il a recruté des chercheurs dans les 4 pays. Ils ont fait des recherches et ils ont remarqué que le stock a diminué, ce qui s'est traduit par la baisse de la capture halieutique. Donc il fallait faire quelque chose pour restaurer le lac.
Et pourquoi vous ne publiez pas souvent les résultats de vos recherches pour que la population soit informée?
Les chercheurs congolais étaient associés. Chacun a travaillé sur la portion du lac de son pays. Ils ont produit les résultats. Ces résultats sont bien de l'ALT. L'ALT, c'est l'autorité du lac Tanganyika. Sur base de ces résultats, ils ont fait des propositions. Sur base de tout ça, on a décidé de la fermeture comme l'une des mesures. Ce n'est pas seulement cette mesure-là, il y en a d'autres. Il y a des engins de pêche qui sont prohibés, tout ça. Parce que la sensibilisation continue, c'est un processus. Ça se fera au début, pendant et après, pour que notre lac se restaure.
Comment se fait-il qu'il y a des remous aujourd'hui, ici en RDC, comme en Tanzanie et en Zambie? Et pourquoi n'avez-vous pas suffisamment sensibilisé les pêcheurs pour éviter ce qui est arrivé aujourd'hui?
Dire que à 100% la population sera pour l'ALT, c'est une utopie. C'est sûr que quand on vous dit que arrêtez d'abord ce que vous faites alors que vous savez vous vivez autour du jour, c'est normal. Moi je sais que la population est en train de s'exprimer. On ne peut pas empêcher la population de s'exprimer. Mais tout ce qui est en train de se faire, c'est pour le bien de la population. D'abord le bien du pêcheur. Quand il y aura beaucoup de poissons là, le premier bénéficiaire, c'est le pêcheur. La sensibilisation a commencé depuis le mois de juin. On a d'abord convoqué les autorités provinciales, les autorités nationales. Il y avait eu des sièges du 1er au 6 à Kalemi pour la RDC, en Tanzanie et en Zambie et au Burundi. Et les autorités avait soutenu la charte. Et dernièrement, à l'hôtel Susanna, il y a eu encore d'autres assises où il fallait maintenant approcher les pêcheurs et les autorités locales. Ce qui a été fait, on a appelé les administrateurs, les pêcheurs, les représentants des pêcheurs, ainsi de suite, et on leur a parlé de la charte. Bon, on comprend peut-être qu'il reste peu de temps. Il y avait aussi les contraintes financières. L'argent n'était pas sorti trop vite parce que ça engage des moyens. Il faut que la FAO débloque, donne à ALT puisse programmer les descentes sur le terrain. Mais la réalité, c'est celle-là. Les préoccupations des pêcheurs sont prises en compte.
Notre invité répondait aux questions de Fiston Ngoma Mayabala. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rungu Shinj. Merci de votre attention.